41. Ah, oh, la belle grande visite en studio.
La vraie.
Oui, il est sorti de Laval. Ah oui. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est de passage à Québec depuis déjà quelques heures parce qu'il a été molesté hier par le gouvernement pour assister.
Séquestré.
Oui, et molesté, nous dit-on. Ils n'ont pas donné d'eau pendant 4-5 heures. C'est une blague. Mais salut, comment ça va?
Pas pire.
Content de t'avoir avec nous autres en studio. C'était comment hier le dévoilement du budget là, avec le beau grand sourire à Nicolas Girard?
Nicolas Girard ou Éric Girard?
Éric Girard.
Tu le déstabilises. Il est content de t'avoir en studio.
Ben écoute, non, mais c'est un honneur d'être en studio. Ça, je pense que c'est la première fois que je viens ici. Mais c'est pas la première fois que je viens à Québec. Ouais. J'espère que c'est pas la seule fois de l'année que je vais venir.
C'est la première fois qu'on se voit tous en vrai. T'avais-tu déjà vu Yannick en vrai?
Nous autres, on est en Zoom la plupart du temps quand
c'est
on jase.
Ah, c'est ça.
J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, mais en réalité, on s'est jamais vu en vrai. Ça fait quand même plusieurs années qu'on. Ben, 2 ans et demi, même que bientôt 3 ans qu'on fait des chroniques avec vous autres. Fait que, bref, j'espère revenir plus souvent à Québec pour autre chose que des mauvaises nouvelles, parce que c'est à peu près à ça qu'on a eu droit hier. Là, on va se le dire franchement, c'était pas un très beau budget, puis c'était quand même assez particulier de l'expérience du huis clos budgétaire. Là, parce que tu rentres là, moi j'étais là avec le huis clos média, fait que c'était à 9h AM, et t'as pas de téléphone, t'as pas d'internet, et tu récupères tout ça à partir de 4h PM et pas avant.
Vous êtes très surveillés, là.
Oui, il y a de la police, il y a de la sécurité du Québec qui s'assure à ce que tu n'as même pas le droit d'avoir une souris pour ton ordinateur Bluetooth. Là. Il faut que ce soit vraiment une souris avec un câble. Là. C'est à ce point-là.
Ah, ben oui.
Et ton ordinateur doit être sur le mode avion. Puis des fois, il check pour passer pour s'assurer que ce soit bel et bien le cas. Fait que c'est ce genre de contrôle. Puis c'est totalement normal parce qu'ils veulent éviter quand même qu'il y ait des leaks d'informations parce que c'est relativement confidentiel. Puis c'est pour éviter justement que l'information privilégiée se rende à d'autres personnes de l'extérieur de la salle avant que le gouvernement fasse l'annonce. C'est une question de respect des institutions puis de processus démocratique. Puis essentiellement, pourquoi 16 heures? Parce que c'est là qu'Éric Girard commence à faire son discours et c'est là qu'il nous laisse sortir. Donc,
14 milliards de déficit servi avec le sourire. Qu'est-ce qui t'a surpris là-dedans?
Le sourire.
Ouais, hein? C'est moi aussi. C'est ce que je disais à Denis tantôt.
Oui, parce que moi, écoute, comme je disais, je suis rentré à 9h AM, puis à 9h05, j'avais perdu le sourire, j'avais le goût de partir de là. Parce que, tu sais, la première chose que j'ai faite, généralement, de mon côté, j'ai quand même mon guideline sur comment analyser un budget assez rapidement, puis aller voir c'est quoi les grandes lignes.
Ouais.
Puis j'allais voir le cadre financier assez directement, puis j'ai fait, bon, ça y est, c'est pas sérieux cette histoire-là, je vais m'en aller de là. Mais essentiellement, je trouvais ça totalement irresponsable, ce qui a été déposé hier pour plusieurs raisons. La première, c'est le budget, le déficit, le fait que on va se ramasser avec une dette encore plus importante, plus lourde pour les prochaines années. Puis c'est très mauvais pour notre économie, c'est mauvais pour les contribuables actuels et futurs. Parlant de contribuables, il n'y avait rien dans le budget pour les contribuables, aucun allègement fiscal. Et oui, il y a des petits crédits d'impôt qui ont été abolis, d'autres qui ont été créés, mais au final, c'est un peu jouer avec les crédits par la porte en arrière.
Mais
c'est
comment
tout le monde qui en profite.
Comment on fait pour faire du gambling avec l'argent des Québécois? Dire que Trump, finalement, ça va être un 10% plutôt qu'un 25%, pourquoi on n'y a pas été avec le 25% pour faire le budget?
C'est une très bonne question parce que le scénario de référence, ils ont fait comme 3 scénarios de référence en fonction soit d'une croissance économique forte, soit des les possibles tarifs qui vont s'appliquer à partir du 2 avril, qui apparemment seraient des tarifs de 10 %. Encore là, ça peut changer. On connaît un peu la musique. Là, ça fait depuis le 20 janvier qu'on a des menaces de tarifs qu'on pense qu'ils vont arriver puis qu'ils n'arrivent pas. Puis l'autre scénario de référence, c'est 25 %. Puis ça, ça fait grimper le déficit quand même pas à peu près. Ben, on monte quasiment d'un milliard juste avec ce scénario-là. Puis à long terme, il n'y a pas de retour à l'équilibre budgétaire. Puis c'est sûr aussi que si les déficits, ben pas les déficits, les tarifs de 25 % s'appliquent, ça va pousser le Québec encore plus proche d'une récession. Ça, c'était le mot en R que Éric Girard ne voulait pas trop prononcer hier.
Mais les gens ne comprenaient pas de quelle ampleur cette récession-là aussi pourrait frapper le Québec. Là, hier, ça jasait beaucoup. Là.
Oui, avec raison, parce qu'à la fin de la journée, on comprend quand même que le gouvernement, comme à peu près tous les gouvernements au Canada, ont relâché des budgets déficitaires, en fait, en bonne partie parce qu'ils veulent répondre à la menace tarifaire. Le seul problème, par exemple, c'est que dans le cas du gouvernement québécois, puis ça, c'est une critique qui a été faite entre autres par Éric Duhaime et par d'autres commentateurs là-dessus, c'est le déficit aurait eu lieu quand même que Trump soit là ou pas. Là. La réalité, c'est que le déficit qu'on a présentement, c'est vraiment l'accumulation de dépenses qui sont beaucoup plus élevées que nos revenus. Et c'est une tendance qu'on suit depuis les 25 dernières années, voire les 30 dernières années. Puis on commence tranquillement à en voir le prix. Puis la réalité aussi, c'est que si jamais il y a effectivement une récession qui s'applique, oui, ça va faire encore plus mal à l'économie, aux revenus du gouvernement. Et là, ben, oublier le retour à l'équilibre budgétaire. Puis même pas juste ça, en fait, Éric Girard l'a dit lui-même que s'il y avait une récession, il va essentiellement suspendre la loi sur l'équilibre budgétaire. Donc, il va se permettre de creuser des plus gros déficits. Oui. C'est sûr, quoi, s'il y a une récession, il faut agir. Il faut que le gouvernement trouve des alternatives, des solutions. Sauf que la solution qui n'est jamais préconisée, c'est de réduire le fardeau fiscal. On va toujours dans l'autre direction. On investit, on garoche du cash à droite et à gauche, on crée des nouveaux crédits. Puis au final, bien, la plupart des travailleurs sont lésés puis ils vont quand même payer le prix des politiques publiques qu'on vote aujourd'hui.
On en a souvent parlé, toi et moi. Si les paradis fiscaux existent, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Ouais. Puis actuellement, le Québec, actuellement, le Canada est un enfer fiscal. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises dans un avenir proche, moyen ou éloigné qui vont venir s'établir au Canada en disant « Voici le pays où on va faire croître notre entreprise. » On n'est pas attirant, si ce n'est que quand c'est le temps de donner des gros subventions de milliards là, à la Nordvolt.
Exact. Bien, en fait, jusqu'à maintenant, notre plus gros avantage, puis je parle de ça pour quasiment les dernières décennies, c'était le fait qu'on ait de l'énergie à bas prix. Ça, ça a toujours attiré beaucoup d'entreprises parce que quand tu compares les prix de l'énergie du Québec versus ceux aux États-Unis, par exemple, ouais, très avantageux. Mais si tu compares le cadre fiscal, on n'attire pas grand monde. Puis c'est pour ça que les subventions deviennent pas mal l'appât du gain. Pour le reste, excuse-moi parce que le micro, je ne m'attendais pas à me le faire rapprocher. Mais oui, pour la question là, de la fiscalité au Québec, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un coup de barre qui soit fait là-dedans, mais en contrepartie, il faut aussi qu'il y ait un ménage qui soit fait dans les dépenses du gouvernement.
Puis ça, tu l'as pas vu vraiment dans la démarche d'hier?
Non, le seul ménage qu'ils ont réellement fait, puis j'y crois à peine sur la notion du ménage, c'est le fait qu'ils ont été voir les mesures fiscales du gouvernement, entre autres les crédits d'impôt qu'ils versent, puis ils ont décidé de voir qu'est-ce qui pouvait être harmonisé, qu'est-ce qui pouvait être éliminé, qu'est-ce qui était vraiment demandé versus qu'est-ce qui l'était moins. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait comme 8 ou 10 crédits qui devaient être éliminés de l'équation, mais ils en ont comme créé un nouveau qui compense, fait qu'au final...
Ça s'annule.
Ça s'annule, fait que, puis en plus, si on garoche plus d'argent, puis tout ça est dans le principe qu'on veut encourager les entreprises à investir. Donc, c'est des crédits d'impôt qui sont essentiellement pour les entreprises pour qu'elles puissent investir dans la recherche et le développement. Puis c'est vrai que le Québec, au cours des dernières années, on a tiré de la patte là-dessus, surtout par rapport au reste du Canada, puis même au reste de l'Amérique du Nord. Mais à quel point... ce crédit d'impôt-là va faire une différence dans le contexte économique actuel avec le cadre fiscal qu'on a qui ne s'est pas vraiment amélioré non plus. Et avec la... c'est pas juste les questions des tarifs aussi, mmh, avec les Américains. C'est le fait que Donald Trump va aller plus loin bientôt en allégeant le fardeau fiscal des entreprises et des contribuables américains de beaucoup. C'est ça, en fait, la stratégie de ces tarifs, ça mène à ça. Donc, la première étape, c'est la perte, c'est la peur d'une récession de notre côté de la frontière. Mais d'un autre, c'est la peur d'une fuite de liquidité de ces entreprises qui pourraient faire, bien écoute, c'est plus vraiment intéressant d'investir au Québec avec toutes les possibilités d'augmentation d'impôts qui pourraient venir avec l'état des finances publiques actuelles. On ne veut pas prendre ce risque-là, on va aller ailleurs.
On est avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Bon, on a appris le déficit de 14 milliards, si tout va bien. Là, pour ce qui est des propriétaires de véhicules électriques, bien, on avait une date, là, 2035, là, pour ce qui est de l'interdiction, ouais, de la vente de véhicules à essence. On sait possiblement que le gouvernement va mettre cette date-là peut-être à 2040 à un moment donné, mais visiblement, ils ne sont pas encore prêts à l'annoncer. C'est carrément la fin de la lune de miel pour les propriétaires ou les futurs propriétaires d'auto électriques, parce qu'on va leur enlever des droits qu'ils considéraient comme acquis avec un véhicule électrique, et là, on les taxe, mais on remet les subventions. Il y a quelque chose qui n'est pas super productif là-dedans. Là. On donne des subventions, mais on les taxe.
Généralement, effectivement, ça fait aucun sens. Le gouvernement donne d'une main puis il reprend de l'autre. Puis généralement, j'ai jamais célébré l'application d'une taxe. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on met une taxe sur les voitures électriques. De la même manière que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a augmenté la taxe sur les matriculations à Montréal puis à Québec. Puis ça touche aussi les voitures électriques, faut le dire. Mais à la fin de la journée, le plus irresponsable là-dedans, c'est que même si on élimine des exemptions ou du moins des privilèges que les voitures électriques avaient jusqu'à maintenant, on ramène quand même les subventions du programme Rouler Vert qui était suspendu en fait jusqu'à tout récemment. Mm-hmm. Mais là, on a renfloué le fonds pour l'année en cours et l'année suivante. Donc, à partir du 1er avril, on peut à nouveau avoir une subvention jusqu'à 4 000 $ pour l'achat d'une voiture électrique. Et,
c'est quand même cohérent avec leur plan actuel, même si on n'y croit pas qu'ils vont réussir à le mettre en place, puis qu'il est beaucoup trop rapide, beaucoup trop demandant aussi pour la population. Pour une fois, on peut dire qu'il y a une certaine cohérence dans leur vision, bien qu'on ne soit pas... Je pense ici, en accord avec ça, par exemple, on a parlé en masse. Là.
C'est parce que t'es taxé par la suite.
Bien, oui, c'est ça qui est assez particulier. Mais par contre, il y a comme une logique là-dedans de la part du gouvernement, parce qu'au début, bien, comme à partir du 1er avril jusqu'en 2027, ils vont ramener le programme Rouler Vert. Mais la fameuse taxe de 125 $ par véhicule électrique. Puis je pense que c'est 62,50. C'est comme carrément la moitié si vous avez une voiture hybride. Ça va s'appliquer à partir de 2027 également. Donc, ils veulent vraiment que les gens aillent vers la voiture électrique avec des incitatifs. Puis une fois, après ça, on retire les incitatifs puis on taxe les gens.
Mm-hmm. Exact. Donc, ouais. On enlève aussi la gratuité de passage au pont à péage puis au traversier à partir de 2027. Une voiture de luxe, j'ai posé la question à Denis tantôt puis Pascal. Une voiture de luxe, là, ça vaut combien, Nicolas Gagnon?
Avant, apparemment, parce que c'est une vieille règle fiscale, avant, c'était une voiture de 40 000 $ et plus. Là, ça, c'était l'ancien modèle.
Ouais.
Mais là, ils ont décidé de mettre ça à 62 500. C'est ça, une voiture de luxe.
Fait que là, il y a des gens qui nous écoutent qui sont visiblement pas dans une voiture de luxe qui se font dire « Monsieur, vous avez un véhicule de luxe. » Et à 60 000, c'est un véhicule ordinaire aujourd'hui.
Oui, bien surtout si on va dans les gammes de voitures électriques. Là. Une voiture électrique, généralement, c'est dans ces eaux-là ou à peu près. Là. Surtout si on va dans les voitures plus familiales ou avec, mettons, les Tesla, etc. C'est pas donné. Mais effectivement, ils ont décidé de bouger la braquette un peu, ne serait-ce que par respect pour la notion qu'effectivement, une voiture à 40 000 $ c'est pas une voiture de luxe, entendons-nous. Mais à 62 000, c'est plus comme on move the goalpost. Là, on le bouge un peu. Mais on continue quand même à aller chercher une taxe sur les véhicules de luxe. Fait que,
mais pense à tous ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, les gars et les filles de la construction, qui ont besoin absolument d'un troc. Puis ça vaut plus que 60 000 $ un truck. Des auditeurs qui me disaient, ben moi, je commence à 80 000, puis j'ai un budget jusqu'à 120 000. Puis je vais être surtaxé parce que mon travail m'oblige à avoir ce type de véhicule-là.
Ben c'est surtout que c'est le terme qui est emprunté par le gouvernement pour définir ces véhicules-là. On définit de luxe à cause de la valeur. Alors que, tu sais, en réalité, là, un tracteur, ça vaut pas mal plus que 62 000, puis s'il y a personne qui dit un tracteur de luxe, là. Fait que c'est plus la mentalité de dire, ah ben regarde, le véhicule, il vaut tant, donc c'est automatiquement quelque chose qui a une valeur appréciative, alors qu'en réalité, ben, c'est un outil de travail là,
mais
pour le
transport. Fiscalement, ils vont peut-être pouvoir aller trouver leur compte dans les dépenses professionnelles, là, si jamais il y a le, s'applique. Là, on s'entend, si toi, tu t'es coiffeuse, puis pas à ton compte, tu travailles pour une entreprise, puis tu penses qu'un pick-up est tellement obligatoire dans ta job, ça se peut que ça passe pas, mais mettons quelque chose de cohérent, ça pourrait s'appliquer. Dans le budget, moi, ce qui m'a... Puis on n'en parle pas du tout, je sais pas si tu as eu un peu le flair pour voir ça, c'est les coupes dans les organisations qui sont semi-gouvernementales. Je trouve que parfois, on va couper des pinottes qui font toute la différence pour certaines organisations qui font en sorte que nous autres, ça roule au quotidien avec ces organisations-là qui viennent en aide à plein de personnes parce qu'ils vont rien dire. Parce qu'ils n'ont pas le talk d'une entreprise, des entrepreneurs qui vont dire quelque chose. Ils n'ont pas le talk dans les médias pour défendre leur cause. Ils vont juste faire avec. Puis ça, pour moi, ça m'amène à voir un peu la démagogie d'un gouvernement.
Oui, puis c'est quand même assez particulier qu'ils se sont attaqués aux organismes parapublics. Je pense qu'il y avait aussi, entre autres, le DPCP qui perd un peu de financement. Je pense qu'il y a une affaire comme 3 millions de dollars.
C'est irrationnel.
Totalement. Parce que, je veux dire, autant que je suis pour le fait qu'on fasse le ménage dans les finances publiques, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut définancer tout non plus. Là,
c'est comme des coupures faciles en disant, ben eux, ils vont pas se révolter parce que, ben c'est ça, c'est des gens qui sont bien plus près de leur personne, qui sont en train d'aider, que dans toute l'administration, aller se battre contre un gouvernement. Mais ces pinottes-là, même si on les ramasse puis on pogne le sac, vont pas faire de différence sur notre budget gouvernemental, mais font toute la différence dans leur vie à eux puis dans la vie de la société. Ça me fascine un peu.
Non, absolument, parce qu'on s'entend, là, c'est pas le 3 millions du DPCP qui va ramener l'équilibre budgétaire. Là. C'est pas en coupant là-dedans, c'est vraiment en allant plus loin. En fait, quand je faisais référence un peu plus tôt au fameux déficit structurel qu'on accumule depuis les dernières années, ben, c'est carrément le cœur de la fonction publique québécoise. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, l'augmentation du nombre des effectifs à temps complet, ou plutôt ce qu'on appelle les fonctionnaires, en fait, dans la dernière année, ils ont augmenté de 26 000.
Alors que François Legault nous avait promis le contraire.
Exact, ben, puis qu'on avait besoin en pandémie, mais on n'a plus besoin nécessairement en ce moment, je pense.
Non, mais ben c'est ça. Si on regarde les chiffres depuis la pandémie, puis ça, c'est encore plus important, c'est un bon point. En fait, c'est depuis 2021-2022, c'est pas mal le creux de la pandémie, on avait 557 000 fonctionnaires, autant dans la fonction publique, donc les ministères, et hors fonction publique, donc la santé et l'éducation. Là, on est rendu à 608 000. Donc, depuis le cœur de la pandémie, où est-ce qu'on avait fait des embauches massives, justement pour parer à l'urgence, mais c'est une urgence qui était temporaire, on a augmenté de manière permanente de 51 000 le nombre de fonctionnaires en tout et partout. Et ce qui me perturbe le plus, c'est que j'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais on avait à peu près 28 000 gestionnaires au Québec en 2021-2022. On est rendu à 33 000. Quand on a regardé, par exemple, les infirmières, on avait 71 000. Et là, on est rendu à peu près à 76 000. L'affaire, c'est qu'on a quasiment... En fait, en théorie, on a embauché même plus de cadres qu'on a embauché d'infirmières depuis même le cœur de la pandémie.
Mais tu me confirmes que ça va mieux en santé depuis ce temps-là?
Non, absolument pas.
Je mais pense c'était-tu une incapacité de gérer des contrats de fonction de public en disant il y a un arrêt à cet emploi-là sans prime quelconque ou la structure que l'on connaît, qui est quand même une prison dorée pour bien des fonctionnaires, ne permettait pas ça malgré le besoin urgent de pandémie, tu sais?
Ben, c'est ça. C'est surtout que le gouvernement, après, ben, en fait, durant la pandémie et après, ils en ont profité pour changer leurs orientations un peu. Puis c'est là qu'on peut dire que la CAQ s'est un peu transformée. Et surtout, quand on voit aussi les nouvelles structures qui sont en train de se bâtir, parce qu'ils ont profité de la pandémie pour comme constater à quel point le système de santé était effectivement trop faible pour faire face à une pandémie comme celle-là. Déjà qu'on avait de la difficulté avec la grippe à chaque année, la COVID n'a pas aidé. Mais là, ils se sont dit, OK, ben après avoir fait à peu près 4 ou 5 réformes du système de santé depuis 2000, on va en faire une autre. Et cette fois-ci, on va mettre l'Agence Santé Québec sur le top. Mais l'Agence Santé Québec, elle s'est donnée au final, t'sais, respectueusement, j'espère que ça va finir par fonctionner à quelque part, parce qu'on en profite d'une certaine manière que le système de santé soit meilleur pour la société québécoise. Mais d'un autre côté, on a juste embauché plus de hauts fonctionnaires là-dedans. On leur a donné des bonus. On s'est mis à garrocher des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans la transition pour leur plateforme numérique. Je veux dire, on s'est mis même à dépenser des centaines de milliers de dollars parce que Santé Québec, quand ils ont commencé à opérer, ils ne savaient même pas c'est quoi leur mission existentielle. T'sais, ils ont dû dépenser 100 000 $ pour qu'une firme leur dise à quoi ils servent, alors qu'il avait été fondé par le gouvernement pour ramener des solutions au système de santé. Puis, mais à la fin de la journée, c'est une autre superstructure qu'on a mis par-dessus les autres superstructures du gouvernement du Québec. Ouais. Ça amène plus de gestionnaires, ça amène pas plus de personnes qui sont en première ligne pour
qui
aider les populations.
Qui on coupe dans des pinottes.
On est avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On parle de ce qui touche votre portefeuille là, dans le budget à Girard. Je t'ai rendu aux primes d'assurance qui vont être plus chères en 2027. Les taxes sur les primes d'assurance qui vont augmenter de 1% pour s'arrimer au taux de la taxe de vente du Québec à 9,975. Donc, à titre d'exemple, ce qu'on nous dit, c'est que pour une famille qui paye 4 000 $ par année en assurance et habitation, ben la hausse va représenter... assurance, habitation et automobile, là, la hausse va représenter 39 $ C'est encore de l'argent qu'on vient chercher.
Oui, mais même si on s'entend, il y a toujours quelqu'un qui va dire oh, « c'est juste 40 $ c'est un café par semaine ou à peu près. » Ouais, il disait ça aussi.
Un café par semaine à 49 $ Ouais.
Non, ben, non, même
non
pas.
Franchement, les gars.
Non, c'est ça, même pas. C'est bien moins que ça, mais en réalité, souvent, comment ils vont justifier la perception.
Pascal
en disant...
va chez Starbucks en passant.
Ah, okay. Non, c'est faux.
C'est autres cafés.
Nous autres, on est au Tim Hortons.
Moi, je suis à la maison.
Pascal, c'est 3 jours.
Je suis café maison, moi, avec. C'est pour ça que ça coûte moins cher au café. Mais c'est ça, pour la question du 40 $ sur les primes d'assurance que le gouvernement espère aller chercher, c'est sûr que c'est des peanuts, mais c'est quand même de l'argent de moins dans les poches des gens. Tout ça sous le couvert du fait que le gouvernement a perdu le contrôle sur ses dépenses puis essaie d'aller chercher des revenus supplémentaires en catimini, pas
mais,
trop riche.
Oui,
trop,
sauf que honnêtement, je trouve que c'est une des pires années de la décennie. Quand tu alignes toutes les hausses qui ont été faites un peu partout, autant municipal, au fédéral, au provincial, là, juste l'immatriculation, à quel point ça a bondi.
Ouais.
Check tes taxes municipales. Là, on parle plus des 46 piastres ici, des 35 piastres là. Je voudrais que tout le monde fasse l'exercice à la fin de l'année. Là. On est rendu à bien péter le 1000 $ de plus. Là.
Exact.
Bon, on est un enfant fiscal, c'est pas compliqué. Les frais de garde d'enfants seulement jusqu'à 14 ans maintenant? Ça aussi, ça a diminué l'abolition du bouclier fiscal. On dit que Québec abolit son bouclier fiscal. Un crédit d'impôt qui indemnisait les travailleurs à plus faible revenu qui perdaient certains avantages après une hausse de revenus d'emploi. Le gouvernement juge que le bouclier était complexe et peu connu. La fin du bouclier représente une perte moyenne de 244 $ pour une année par personne touchée.
Encore là, je ne sais pas s'il avait mentionné combien de personnes étaient touchées comme tel, mais je pense qu'il avait calculé que tant que ça touchait à peu près moins de 100 000 personnes, ça pouvait être éliminé. Là, ça fait partie des... Ils ont carrément dit qu'ils ont évalué environ 170 mesures fiscales, puis ça en faisait partie des choses qu'ils ont éliminées comme telles. Mais c'est des économies sur un... Honnêtement, c'est sur un bout de comptoir, là, essentiellement, là, ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien qui va vraiment avoir un impact à long terme pour ramener de l'ordre dans les finances publiques. C'est sûr que pour nous, pour les contribuables, ça augmente ne serait-ce qu'un peu notre fardeau. Mais moi, c'est à plus long terme que j'ai des craintes, là, parce que je regardais les projections pour les 5 prochaines années. Là, d'ici le fameux « retour » en guillemets à l'équilibre budgétaire en 2029-2030, on va dépenser collectivement 55,7 milliards de dollars pour payer les intérêts sur la dette du Québec. Pour l'instant, on paye à peu près 10 milliards cette année, mais à partir de l'année prochaine, on va payer environ 12 milliards par année. J'ai vu beaucoup de personnes s'insurger avec toutes les raisons du monde par rapport aux pertes, tu sais, les fameux paris dans Nordvolt, Taiga, Lyon Électrique. Mais il faudrait que les gens s'insurgent un peu plus par rapport au fait qu'on gaspille de nos taxes et nos impôts à chaque année pour des milliards qui ne reviennent pas. Ce n'est pas investi en santé ni en éducation, ni même remis dans nos poches, et, ou même dans les infrastructures. Et je veux dire, à la fin de la journée, tant si longtemps qu'on va continuer à pelleter par en avant, ça va juste s'alourdir. Et on n'a pas une meilleure situation comme telle, parce que la réalité, c'est que si on continue à accumuler des déficits, on va mal passer devant les banques pour la cote de crédit du Québec. Mmh. Et si la cote de crédit du Québec, elle est révisée à la baisse, c'est des conditions d'emprunt qui vont changer, c'est des taux d'intérêt qui vont augmenter, ça va faire en sorte qu'on va avoir un fardeau plus important, et ça va rendre les choses plus difficiles pour le gouvernement du Québec quand c'est le temps d'emprunter de l'argent, quand il y en a réellement besoin. Mettons qu'on fait face à une autre crise, une autre pandémie, une guerre mondiale, on ne sait pas. La réalité, c'est que, bon, un gouvernement, c'est normal qu'il emprunte dans des circonstances exceptionnelles. Mais là, on n'est pas en guerre, on n'est nulle part. C'est vrai qu'il y a une menace de guerre tarifaire, mais on se ramasse avec le pire déficit de l'histoire du Québec. Mm-hmm. Et tout ce qu'on a, en fait, c'est un sourire d'Éric Girard qui a dit « trust me bro », essentiellement. Puis ça va tout se remettre en ordre. Mais son plan, je l'ai lu dans le budget, puis il n'est pas très long à lire. Là, honnêtement, c'est un plan d'environ 5 pages, fait que c'est très peu crédible. Mais son plan, il tient vraiment sur la broche à foin. C'est du wishful thinking au mieux.
Oui. Là, on sort un peu de la Fédération canadienne des contribuables, puis on va parler un peu de politique. Je vais entendre ton opinion là-dessus. As-tu l'impression que la fin va justifier les moyens? On va revenir sur notre non-désir d'exploiter nos ressources qui sont dans notre sol? Exemple, le pétrole, le gaz, on en a dans notre sol, puis on a toujours dit l'acceptabilité sociale n'est pas là, Ils n'ont jamais fait de sondage vraiment pour savoir si elle était là, l'acceptabilité sociale. Mais je pense qu'à partir du moment où tu vas donner un chèque de 500$ à chaque personne, ben ils vont dire oui, ouvrez le sol. As-tu l'impression qu'on va y aller? On va commencer à exploiter peut-être un peu plus ce qu'on voulait pas faire?
Honnêtement, je l'espère.
On n'aura pas le choix. Là.
On n'a pas le choix. Puis on a vu quand même la tendance commençait déjà à changer. Il y avait eu un sondage fait par Somme, la presse, qui disait justement que les Québécois étaient plus ouverts au projet de gazoduc et de GNL Québec ou de NRJS. Donc déjà, il y a une ouverture à ce niveau-là. Par contre, pour l'acceptabilité sociale, j'ai toujours eu bien de la difficulté avec ce concept-là parce que c'est un terme qui est très malléable. Ben généralement, oui. c'est d'un, quand on est un leader ou un chef d'État comme François Legault est supposé être, c'est lui qui installe l'acceptabilité sociale. Puis surtout, tu sais, on se rappelle par exemple de GNL Québec, là, les principaux opposants à ce projet-là, c'était pas du monde du Saguenay. Là.
Ben non, c'est le Québec solidaire.
Ouais, fait qu'on fait, tu sais, les principaux opposants au troisième lien là, à Québec, c'est
le Québec solidaire.
C'est effectivement, c'est pas du monde de Québec essentiellement. Et ben il y a peut-être un, là, quand même, Sol Zanetti, Catherine Dorion à l'époque, là, je me souviens plus c'est qui leur député actuel, mais il n'en reste qu'il y a eux, mais il y a quand même d'autres forces vives dans la société civile et surtout dans d'autres régions qui vont se mêler au débat puis qui vont un peu faire en sorte que l'acceptabilité sociale est complètement biaisée. Mais oui, regarde, il faut qu'on exploite notre pétrole. De un, ça fait longtemps que je fais 10 ans que je le dis, là, avec mes autres occupations précédentes, je le disais déjà, là, à cette heure, je pense que ça vaut la peine de ramener ça sur la table. Le gaz naturel, on en a pour des milliards sous nos pieds. En fait, le pétrole, c'est même pas des milliards, c'est des billions. On a pour 4 000 milliards de dollars en pétrole qui dorment au Québec, puis on ne va même pas y toucher. Et ça, c'est sans oublier que depuis 2012, on a un moratoire sur l'uranium. L'uranium, je tiens à dire que, considérant l'importance du nucléaire encore aujourd'hui, peut-être qu'au Québec, on a fermé la porte à ça, mais pas le reste de la planète. Et ça donne très grosse valeur là, sur les marchés. Si on s'attaque à nos minéraux critiques, si on va chercher nos hydrocarbures, on peut créer des revenus supplémentaires qui vont faire en sorte qu'on va ramener de l'or dans les finances publiques
ben oui.
sans augmenter le fardeau fiscal des contribuables.
Mais j'ai pas confiance en ces gens-là qui nous dirigent depuis des décennies et des décennies. Puis de savoir qu'on est sur une mine d'or depuis des années, puis qu'on crache sur les gens de l'Alberta en disant « Ah, ça, c'est du pétrole sale. » On se souvient de l'épisode du fameux pétrole sale, mais on préfère faire venir du pétrole d'ailleurs puis l'utiliser, puis en les traitant de maudits pas bons, alors que nous, on en a chez nous, puis on continue de s'appauvrir année après année. C'est d'une tristesse, Nicolas Gagnon. Ça m'a fait un plaisir de te rencontrer pour une première fois en personne. Les auditeurs t'apprécient beaucoup en passant. Là, je vois les commentaires rentrer.
Et vice-versa.
Tu serais peut-être mieux à Québec qu'à Laval. Tu as-tu déjà pensé?
J'y pense très sérieusement.
Oui,
en fait.
C'est on même est pas une blague. Belle ville.
Oui,
il y a des belles filles à Québec. Là. Il y a du bon monde. Il y a du monde le fun.
Non, mais le pire, c'est même pas une blague. J'y pense sérieusement à Québec. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que Montréal. Je viens de Montréal, mais j'apprécie c'est beaucoup plus Québec. J'y ai pas assez souvent.
L'Assemblée nationale est ici.
Ouais, je sais.
On dit rester proche de ses ennemis. Hein?
Ouais, ben moi, tu vois, je préférais en rester loin. mais gars, c'est quelque chose qui pourrait être possible, ben peut-être oui. Au courant de la prochaine année. C'est sûr que, tu sais, là, on est en élection fédérale, donc je serais dorénavant, je vais être sûrement plus proche d'Ottawa, ne serait-ce que pour les prochaines semaines.
Ouais.
Mais l'année prochaine, c'est les élections provinciales au Québec. Donc, c'est clair que je vais être plus souvent proche de l'Assemblée nationale. Donc, ça va me faire plaisir de revenir aussi souvent que possible.
Toujours un plaisir de t'accueillir. Nicolas Gagnon
mais
de la
passe
Fédération.
Passe par moi, puis c'est pas grave si tu me déranges le dimanche, même si c'est ma fête. Là,
ouais. C'est bon.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir pour les gens qui veulent en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables. C'est contribuable avec un S.ca. Contribuable avec un S.ca. Un gros merci, puis à la semaine prochaine, mon ami.
À très bientôt. Bye merci. Bye.
13h06, on s'arrête.